إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دي الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le huitième, c'est-à-dire le huitième des annulatifs de l'islam, consiste à secourir les polythéistes et leur venir en aide contre les musulmans. La preuve est sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés. Celui parmi vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Cet annulatif, donc, il est lié à l'alliance et au désaveu. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a ici mentionné une des formes d'alliance aux mécréants. Mais en réalité, l'alliance, elle est plus large que cela. En effet, elle englobe de nombreuses choses, comme l'amour des mécréants, le fait de leur venir en aide contre les musulmans, leur adresser des éloges et des compliments sur leur religion, et autres formes d'alliance aux mécréants. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans d'avoir de l'aversion et de la répulsion pour les mécréants, ainsi que de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Et comme on a déjà traité ce sujet en détail, lors de notre étude des trois fondements, ainsi que lors de l'étude du troisième annulatif de l'islam, on va se concentrer ici essentiellement sur la parole de l'auteur, rahimahullah, ainsi que sur l'exemple qu'il a cité. Il a donc dit, rahimahullah, le huitième consiste à secourir les polythéistes et leur venir en aide contre les musulmans. Venir en aide aux polythéistes, en réalité, cela désigne le fait de les secourir, car secourir une personne consiste à lui venir en aide. Il apparaît donc que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'a mentionné cela que pour clarifier le sens de sa parole. Et il a ensuite mentionné comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 51 de Surat al-Ma'ida qui commence comme suit: Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc sa parole, subhanahu wa ta'ala, celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Ceci est une preuve de la mécréance de l'auteur de cet acte. Et ceci est le sens apparent de sa parole. Fa innahu minhum. Il devient un des leurs. C'est-à-dire qu'il devient comme eux et fait partie des mécréants. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset comme preuve. Et on a dit que l'alliance aux mécréants, elle peut avoir lieu de plusieurs manières, même sans leur venir en aide ou les secourir. Il y a par exemple le fait de les aimer pour leur religion, le fait de les complimenter ou faire les éloges de leur polythéisme ou de leur religion altérée, ainsi que d'autres formes qui entrent toutes sous la menace de ce verset. Celui qui les prend pour alliés devient un des leurs. Le sens de ce verset, il est donc général. Et l'alliance ou le secours aux mécréants, cela peut avoir lieu de différentes manières, qui ont chacune des jugements différents. La première manière, c'est de les aider et les secourir contre les musulmans, tout en aimant et approuvant ce sur quoi ils sont comme mécréance, polythéisme et égarement. Celui-ci, il n'y a aucun doute que c'est de la mécréance majeure, faisant sortir son auteur de l'islam. Donc quiconque vient en aide aux mécréants contre les musulmans, tout en aimant leur religion et en approuvant leur religion, et qu'il fait cela volontairement, sans être contraint, alors celui-ci est sorti de l'islam, car il a commis de la mécréance majeure, d'après le sens apparent du verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Le deuxième cas, c'est celui qui les aide contre les musulmans, mais sous la contrainte. Il ne le fait pas de son plein gré. ils ne les aiment pas, ils n'aiment pas leur religion, mais ils le contraignent à cela du fait qu'ils résident parmi eux dans leur pays. Celui-ci, il est donc sous une menace sévère, et il est à craindre pour lui qu'il tombe dans la mécréance majeure et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les polythéistes ont contraint un groupe de musulmans à combattre à leur côté contre les musulmans lors de la bataille de Badr. Ces musulmans, ils étaient de ceux qui sont restés à Mecca, ceux qui ont délaissé la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc réprimandés et sévèrement blâmés pour leur délaissement de la hijra et le fait qu'ils soient restés parmi les polythéistes, exposant ainsi leur personne à la situation dans laquelle ils se trouvèrent. Les polythéistes, ils les ont donc contraints à sortir à leur côté, contre les musulmans. Donc ils ne sont pas sortis par amour de la religion des polythéistes. Ils réprouvaient la religion des polythéistes et ils aimaient la religion de l'islam, ainsi que les musulmans. Mais ils sont restés à Mecca, par amour de leurs biens, par amour de leurs proches et par amour de leur ville. Allah subhanahu wa ta'ala a alors descendu les versets bien connus de Surat al-Nisa, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim » Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » C'est-à-dire, dans quel camp étiez-vous? De quel côté vous trouviez-vous? Et ceci est un blâme et une réprimande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pourquoi étiez-vous avec les polythéistes alors que vous êtes musulmans? Ils dirent « Nous étions impuissants sur terre ». Nous n'avions pas d'échappatoire. C'est eux qui nous ont forcés et qui nous ont contraints à sortir avec eux pour combattre contre les musulmans. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Les anges leur diront alors, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous restés avec les polythéistes alors que vous êtes musulmans et que vous pouviez émigrer? Que vous pouviez faire la hijra. C'est donc vous qui avez exposé vos propres personnes à ce danger et à cette situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Et méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Au moment de la révélation de ce verset, quelle était la terre d'Islam? Ce n'était autre que Médine, une petite ville dans la péninsule arabique qui était entouré par les juifs. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette terre comme étant vaste. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Alors que dire aujourd'hui, alors que les terres d'Islam se sont élargies d'Est en Ouest et d'Orient en Occident? Il n'y a pas de doute que la terre d'Allah est vaste et qu'elle permet de pouvoir émigrer. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ceci, c'est donc une menace sévère à l'encontre de ces musulmans qui ont délaissé la hijra et qui ont été contraints de combattre aux côtés des mécréants contre les musulmans le jour de la bataille de Badr. Ainsi, celui qui délaisse la hijra, alors qu'il a les capacités d'émigrer, mais qu'il reste vivre avec les polythéistes, que ce soit par amour de ce bas monde, par amour de ses biens, par peur de quitter ses proches ou autre raison mondaine, puis que les polythéistes le forcent à combattre avec eux contre les musulmans, alors celui-ci, il est en grand danger et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le troisième cas, c'est celui qui aide les mécréants contre les musulmans et ceux de son plein gré, sans être contraint. Cependant, il a de l'aversion pour la religion des mécréants. Il n'approuve pas leur religion, mais il fait cela, par exemple, pour un intérêt mondain. Alors celui-ci, il n'y a aucun doute qu'il a commis un grand péché et il est à craindre pour lui qu'il tombe dans la mécréance. Le quatrième cas est celui qui aide les mécréants contre d'autres mécréants mais qui ont un pacte avec les musulmans. Et ceci est interdit car il n'est pas permis pour le musulman de rompre le pacte même si c'est avec des mécréants. Donc les mécréants qui sont liés à un pacte avec les musulmans, il est interdit de les combattre. Il est interdit de leur porter atteinte, et ce, par fidélité envers ce pacte. Et celui qui aide quelqu'un à les combattre, il a alors rompu le pacte. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit, Celui qui tue un mu'ahad, celui qui tue un mécréant qui est lié par un pacte avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 72 de Surat al-Anfal, وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, sauf contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Donc ce verset, il concerne le fait que des musulmans demandent secours à d'autres musulmans. Il ne leur est pas permis de leur porter secours contre un peuple avec qui ils sont liés par un pacte. Alors que dire si ce sont des mécréants qui demandent aux musulmans de combattre d'autres mécréants qui sont quant à eux liés à un pacte avec les musulmans. Il n'y a pas de doute que ceci rentre également dans l'interdiction mentionnée dans ce verset. Le cinquième cas, c'est celui qui a de l'amitié et de l'amour pour les mécréants, mais il ne les aide pas contre les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. Et il a nié la foi de celui qui est dans cette situation. Car ceci s'oppose à la foi, et ceci s'oppose au désaveu qui est obligatoire dans la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 22 de Surat al-Mujadila, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier des gens qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Donc le fait d'avoir de l'amitié et de l'amour pour des gens qui sont ennemis de cette religion, il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la foi. Et il n'est pas permis pour les musulmans d'éprouver ces choses-là pour les mécréants. Dans Surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala a développé ce sujet. Il commence la Surat en disant « Ya ayyuhal ladina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawadda » وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Puis il dit dans le verset 4, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Vous avez certes eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc, à travers ces versets, on voit l'obligation pour le musulman de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Cependant, avant de terminer cette assise, je tiens à souligner, comme on l'a déjà mentionné dans les cours précédents, de manière plus détaillée, que le fait que le musulman se désavoue des mécréants, cela ne veut pas dire qu'il doit couper toute relation avec eux ou qu'il doit avoir un mauvais comportement avec eux. Bien au contraire, le musulman, il doit sans cesse se rappeler qu'à travers ses actes, il appelle à sa religion. Il doit donc être un modèle exemplaire et attirer les gens à sa religion par ses actes, tout en se limitant à ce qui est légiféré pour lui. Donc, il est permis pour le musulman d'être bienfaisant envers ses parents et ses proches mécréants. Et ceci fait partie de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il est permis aux musulmans de faire preuve de bienfaisance envers ses voisins mécréants, surtout s'il vit dans leur pays. Il doit faire preuve de bienfaisance envers eux et leur donner le droit du voisinage. Également, parmi les relations permises entre les musulmans et les mécréants, il y a les échanges commerciaux et toute autre chose comportant un intérêt pour l'islam et les musulmans. Également, parmi les choses permises qui sont importantes à rappeler, surtout à notre époque, il y a le fait qu'il est permis pour les musulmans de s'entraider avec les mécréants dans la lutte et le combat des transgresseurs parmi les musulmans, à l'exemple des Khawarij. Il n'y a pas de doute que le groupe des Khawarij fait partie des groupes corrupteurs sur terre, qui répandent la terreur dans les pays musulmans avant même les pays mécréants. Donc il est permis aux musulmans, et notamment aux gouverneurs, de s'entraider avec les mécréants dans le but de combattre ces corrupteurs sur terre. Et ceci fait partie des choses qui sont permises et qui ne rentrent pas dans l'alliance interdite. Ceci était donc quelques questions liées à cet annulatif que nous avons abordé de manière concise. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.